Je voudrais faire une lecture avec vous dans Matthieu chapitre 3. Est-ce que vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, pour faire cette lecture avec moi? C'est la parole de Dieu. Je voudrais que nous soyons conscients que c'est Dieu qui a parlé. Vous le croyez que tout vient de Dieu? Dans le Saint-Livre, il y a une loi qui circule en ce moment dans le milieu religieux, dans le grand milieu religieux, où on va certainement voter que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que la Bible est dans la parole de Dieu. Vous voyez un peu le vice? Ça va être voté dans les églises. Mais moi, je ne voterai pas ça. Hein. Matthieu chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons faire une deuxième lecture. C'est la même lecture dans Luc au chapitre 13, mais nous allons lire la conclusion. Ça se termine par une pensée qui mérite d'être ajoutée à l'exhortation. Luc chapitre 3, verset 18, vous gardez Matthieu chapitre 3. Mais dans cet évangile de Luc, au même chapitre, il y a une parole qui mérite qu'on s'y arrête. Je pense. Je répète, c'est la même histoire présentée par le docteur Luc. Luc chapitre 3, verset 18. « C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. » Regardez bien la suite. « En lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. » Dont ce texte ajoute que Jean-Baptiste ajoutait encore beaucoup d'autres exhortations. Pourquoi ? Mais parce qu'on en a besoin. On a besoin d'une parole de Dieu. On a besoin d'une exhortation. Peut-être qu'on a besoin d'être repris ce matin. Qui sait ? Jonathan Guyot parlait lorsqu'il a introduit le premier chant, que peut-être quelqu'un ne va pas bien, qu'il est dans le deuil. Est-ce que ça peut arriver d'être dans le deuil ? Ben oui. Donc quelqu'un a vraiment besoin d'une exhortation liée à ce deuil. Quelqu'un peut-être ne va pas du tout bien spirituellement. Il a besoin d'être repris. Et c'est beau de chanter « Ouvre nos yeux, je veux contempler ta grandeur ». Comment comprendre ces choses? Comment être touché par Dieu? Le problème, il est là. Comment être vraiment touché par Dieu si je ne reçois pas l'exhortation dont j'ai besoin? C'est bien une exhortation. Mais franchement, ce rajout dans l'évangile de Luc indique vraiment qu'on a besoin encore d'autres exhortations. Peut-être que ce n'est pas moi qui vous l'accorderai. Mais peut-être que ce soir, le Saint-Esprit, dans un moment de communion avec Dieu, vous accordera une parole dont vous avez besoin. Vous savez, quand j'entendais l'autre fois, je vous parlais tout à l'heure de cette jeune femme qui était enceinte, je crois, oui, et qu'une chrétienne, certainement très remplie du Saint-Esprit, lui a dit, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Mes frères et sœurs, c'est pas sérieux vraiment, ces gens-là n'ont plus la vie de l'esprit. Le problème, c'est que certains parlent en langue, alors ça fait peur. Et on est en droit de se poser des questions. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une exhortation. Et moi, je vous dis à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, que vous pouvez vous marier. Mariez-vous selon la volonté de Dieu, par contre. Vous pouvez vous marier, vous pouvez avoir des enfants et que Dieu gardera vos enfants. Ce n'est pas moi qui le dis. Je le répète, parce que c'est important. Dieu gardera vos enfants. Si vous restez dans l'arche, si vous demeurez à l'abri du Très-Haut, Dieu vous gardera, vous et vos enfants. C'est antibiblique de dire le contraire. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'on devrait veiller sur nos paroles, vraiment. D'autres exhortations, une parole qui nous touchera. Une parole qui nous bénira, parce qu'on a besoin de bénédiction. Une parole qui va révéler le véritable état de mon âme. Qui sait? Est-ce qu'on connaît vraiment le véritable état de son âme? Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi je sais où j'en suis, je sais exactement où j'en suis. Est-ce qu'on sait vraiment où on en est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et dire, oui, moi je suis exactement où j'en suis avec Dieu. Je sais très bien où j'en suis, ma communion me permet de savoir. Non. Mais Dieu le sait. Et il sait ce qu'on a besoin. Oui, d'autres exhortations, une parole, qu'est-ce que l'Esprit a à me dire? Vous avez remarqué dans l'Apocalypse ce que Dieu dit, chaque fois, ce que l'Esprit dit aux églises. Quelle grâce quand Dieu peut nous parler. Quelle grâce quand on reçoit une parole de Dieu. Alors dans cette exhortation de Jean-Baptiste, il y a une parole, moi, qui me taraude depuis près d'un mois. Je vous en avais parlé, je vous avais même demandé de prier pour ce culte. Une parole qui me taraude, c'est le verset 10. C'est une parole, je ne sais pas si vous vous y êtes déjà arrêté, peut-être que beaucoup ne savent même pas ce que c'est. Verset 10 de Matthieu 3, cette parole, elle est terrible, mais il faut qu'on s'y arrête, elle est liée dans la Bible. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Vous savez ce que c'est une cognée? Vous savez ce que c'est? Les jeunes, vous savez ce que c'est? C'est une grosse hache. C'est une grosse hache. Une très grosse hache qu'utilisaient les bûcherons à l'époque pour couper les arbres. Et Dieu, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, voilà, la grosse hache, elle est au pied de l'arbre. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est écrit, c'est dans le Saint-Livre, c'est une parole dont on a absolument besoin. Vous, peut-être, vous avez besoin de savoir comment sera votre maison dans le ciel. Vous aimeriez savoir comment elle sera votre maison dans le ciel? Est-ce que vous aimeriez savoir comment elle sera? Non? Moi aussi, un peu, quand même. Mais est-ce que c'est important? Non, c'est pas important. Si c'est pas écrit, c'est pas important. Mais ça, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il rajoute, tout bon arbre, on va comprendre avec la suite, tout bon arbre donc qui ne porte pas, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Alors, c'est de deux choses de l'une en fin de compte. Et c'est là que nous devons tous être honnêtes devant Dieu, autant les chrétiens que vous qui n'êtes pas encore convertis. Car je pense que cette prédication est surtout pour les enfants de chrétiens, les adolescents, ceux qui viennent régulièrement et qui mécaniquement s'endorment et s'endurcissent et ne se rendent pas compte le danger dans lequel ils sont. C'est des paroles peut-être pas agréables, mais c'est une loi biblique. C'est une loi du royaume. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, si vous écoutez la parole de Dieu mais que vous ne vous convertissez pas, que vous ne vous repentez pas, vous êtes en train de tomber dans un véritable danger, celui de vous endurcir. Alors, cette parole, elle a été donnée par celui qui a été appelé par le Seigneur Jésus lui-même, le plus grand homme de l'histoire. C'est vrai que Jésus a dit que c'était le plus grand ? Oui, pourtant il n'a fait aucun miracle, mais il a préparé le chemin du Seigneur. C'est lui qui a eu le privilège sur la terre de présenter le maître de l'histoire. qui est venu sur cette terre. Oui, c'est le plus grand homme de l'histoire. Et pourtant, la Bible dit que dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que lui, donc ça devrait nous encourager à obéir à la parole de Dieu. C'est des paroles sérieuses. Alors on s'y arrête, on ne s'y arrête pas, les pasteurs s'y arrêtent pas. Je pense que ce n'est pas bien qu'un pasteur ne s'y arrête pas. Mais moi, mon souci, c'est le salut de votre âme. La Bible dit que les pasteurs, ils veillent sur quoi? Ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. De la même manière que vous n'avez jamais changé de docteur. Il n'y a pas des gens ici qui ont changé de docteur parce que le docteur était devenu un habitué, c'était devenu un ami. Il a fallu changer de docteur parce que chaque fois qu'on était malade, il nous donnait juste un doliprane alors que c'était grave. Ça ne vous est pas arrivé de changer de docteur? Si. Pourquoi? Mais parce qu'on n'avait plus confiance. Et on l'a fait et on l'a bien fait. Mais mes frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas besoin d'encore mieux s'occuper de son âme? Mais où j'en suis? Vous qui êtes ici ce matin, tout à l'heure, on va prendre le pain et le vin. C'est une grande bénédiction de prendre le pain et le vin quand on est en communion avec Dieu. Mais il y a des gens qui le prennent qui ne vont pas bien, comme ces pharisiens et ces sadducéens qui vivaient dans l'illusion. Et il n'y a pas à faire, c'est quelque chose qui va se présenter. C'était vrai à l'époque, mais laissez-moi vous dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Que le jugement approche. Et que deux choses, l'une, comme je l'ai dit, où nous permettons à Dieu de s'occuper de ce qui ne va pas, de couper les racines qui ne vont pas, ou bien Dieu sera obligé de couper l'arbre. Et ça, ce n'est pas bon. Jean-Baptiste avait préparé le chemin du Seigneur, et toutes les prédications devraient préparer le chemin du Seigneur. Prédication, ce n'est pas un bon message, un bon truc, « Ah, il n'a jamais prêché sur ça, c'était super, c'était bien. » Non. La prédication, c'est cette exhortation qui s'adresse directement à mon cœur. Je suis chrétien, oui, je suis dans le deuil, donc j'ai besoin d'une consolation. Je suis chrétien, je suis découragé, j'ai besoin d'encouragement, etc. Et je suis perdu, j'ai besoin de savoir ce que je dois faire. Il y a des enfants de chrétiens qui suivent et ils se disent oui, et on adhère, on est rentré dans l'église en prenant le baptême sans passer par la conversion. Et c'est ce que Jean-Baptiste dénonce. Et on a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'église sans passer par la conversion. C'est pour ça que l'apostasie s'est infiltrée facilement dans les églises. Parce qu'on a baptisé des gens qui n'étaient pas convertis. On a baptisé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et le drame, il est là. Et Jean-Baptiste dénonce cette affaire. Il dénonce cette affaire pour qu'on puisse être sérieux. Jean-Baptiste a préparé le chemin. Il était comment d'après vous, Jean-Baptiste, quand vous le voyez, comment il est défini? Comment il était Jean-Baptiste d'après vous? Comment vous le voyez, vous? Moi, je ne pense pas que c'était quelqu'un de dur. Mais en fait, c'est un homme qui paraît simple quand même. Vous avez vu son costume? Vous avez vu comment il est habillé? J'aurais pu venir comme ça ce matin habillé. Ouais. Vous avez vu? Pourquoi Dieu nous montre comment il est? Est-ce que c'était utile qu'il soit écrit « Jean avait un vêtement de poil de chameau » Une ceinture de cuir autour des reins? Est-ce que c'est utile? Vous allez me dire, ben oui, si c'est écrit. Mais pourquoi Dieu a voulu que ça soit écrit? Parce que c'était pour indiquer une chose qui est importante aujourd'hui dans le royaume de Dieu. C'est que ce n'est pas le messager qui est important. C'était un homme tout simple. C'est sûr que comparé aux robes qu'avaient les pharisiens à l'époque, ça changeait. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est le message qui est important. Ce n'est pas le prédicateur qui est important. Ce qui est important, c'est le message. Dieu l'a voulu ainsi. Ça choquait les gens, la preuve. Dieu l'a voulu. Mais c'est le message qui était important. Est-ce que vous comprenez que ce matin, ce qui est important, c'est le message? Vous le comprenez? C'est ce que Dieu a à te dire. Mais je ne sais pas, moi je crois, c'est grave ce que je vous dis, parce que je le sais. Il y a des gens, ils viennent, alors je vais d'esprit, en parlant de vêtements, je vais dire, voilà, on vient, les mains dans les poches, tout va bien, on est là, on a besoin d'une prédication pour arriver la semaine prochaine. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est quelque chose qui touche notre cœur. Qu'est-ce que Dieu a à me dire? Et apparemment, le message de Jean-Baptiste touchait les cœurs, alors que le message des pharisiens éloignait les gens de Dieu. Et quand la parole de Dieu nous éloigne de Dieu, laissez-moi vous dire que ce n'est pas bon signe. Il y a des gens qui ne vont plus dans les églises parce qu'ils sont sortis plus découragés que lorsqu'ils sont rentrés. Vous l'avez jamais entendu, ça? Vous l'avez déjà entendu? Oui, c'est vrai, c'est triste. Et c'est le message qui doit vraiment me toucher. Qu'est-ce que j'ai besoin ce matin? De quoi tu as besoin, mon frère? De quoi tu as besoin, ma sœur? De quoi tu as besoin, toi qui n'es pas encore baptisé? Toi qui n'as pas encore pris la décision, sachant que cette parole, elle est sévère. Moi, je vous dis, ça fait un mois que cette parole, elle me tarabuste l'esprit. La cognée, elle est mise à la racine des arbres. Je crois que ça vient de Dieu. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas. Il faudrait qu'ils se penchent un peu et qu'ils regardent au pied de l'arbre, au pied de leur vie, qu'ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce message? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que la parole de Dieu agit? Est-ce que depuis, par exemple, quelques années, j'ai développé la haine du mal? Est-ce que c'est important de développer la haine du mal? Est-ce que c'est important? Il n'y en a qu'une qui répond. Est-ce que c'est important d'avoir la haine du mal? Il y a des chrétiens qui n'ont pas la haine du mal. Vous connaissez cette histoire quand, un jour, dans les rues de Jérusalem, c'était à Jérusalem ou à Capernaum? C'était en Israël. Jésus marchait et plein de gens le suivaient, le touchaient, et il y a une femme tout d'un coup qui l'a touché, Jésus s'est arrêté. Vous vous rappelez cette histoire? Qui m'a touché? Tout le monde s'arrête, pétrifié, la femme encore plus. Et Pierre lui dit, mais quand tout le monde te touche, tu demandes qui t'a touché? Quelqu'un m'a touché. Et cette femme, elle a compris qu'elle s'est arrêtée toute tremblante. Mais cette femme, elle a vraiment touché le Seigneur. Ça indique qu'on peut aller à l'église tous les dimanches, toucher le royaume de Dieu, toucher l'église, toucher le Seigneur, entre guillemets, et rien ne se passe. Je devrais être transformé. Je devrais être changé. Peut-être qu'il faut que la parole de Dieu elle m'amène de nouveau à pleurer. Est-ce que ça peut faire du bien de pleurer? Est-ce que c'est écrit que votre rire se change en larmes? Est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'on peut avoir besoin de pleurer? Ben oui, c'est bien. Seigneur, j'ai pas été le meilleur mari, j'ai pas été un bon père. Ça peut nous amener aux larmes. Est-ce que c'est une bénédiction? Et bien sûr, c'est une bénédiction. Est-ce que je veux une vie nouvelle? Vous qui venez, moi je vous pose la question, je m'interroge. Est-ce que ça fait pas de la peine quand même? Des gens qui viennent, des enfants qui viennent. Alors moi, on n'est pas habilité pour juger et on veut surtout pas juger parce que la parole de Dieu suffit et est largement suffisante. Mais vous qui venez depuis des années, qui êtes là, qui écoutez, regardez, comparez, peut-être même jugez, à juste titre, que vous voyez des comportements qui ne vous plaisent pas, etc. Mais qu'attendez-vous? Le Seigneur n'a pas dit, repens-toi si l'église est bien, repens-toi si le pasteur est sympa, repens-toi si. La Bible a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, pas si ça va bien. Oui, mais mes parents, ils sont chrétiens, mais t'as vu le témoignage qu'ils ont. Mais moi, quand je vois mes parents, ça ne me donne pas envie de me convertir. Il n'y a pas écrit « convertis-toi si tes parents sont pieux ». Il est écrit « convertissez-vous et repentez-vous et ne cherchez pas d'excuses parce que la cognée, elle est à la racine. Elle est au pied de l'arbre. Elle est là, posée sur le tronc. Je peux vous dire que moi, j'ai vu cette image quand ce verset s'est imposé à mon esprit. J'ai vu dans mon cœur cette grosse hache contre un arbre. Et je savais que Dieu me parlait au travers de cette pensée. Parce que Dieu veut que les chrétiens entendent ces choses, que les personnes nouvelles, que vos enfants. Il y a des enfants au milieu de nous qui ne sont pas encore convertis. Vous attendez de vous retrouver tout seul un jour dans votre maison? Est-ce que vous vous rendez compte le désarroi dans lequel le monde va se trouver lorsque la porte va se fermer? Vous avez vu ce qui est en train de se passer, vous les avez vu aux actualités. Et ces choses-là, elles vont empirer. Vous avez vu cette semaine ces deux flics qui ont failli se faire brûler vifs dans une voiture? C'est. On va lire un texte. Ce matin, priant, j'ai une prédication de 3h30. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Voilà. Dans Ésaïe, ce matin, je priais, bien sûr, vous en doutez quand même. Je priais et m'est venu à l'esprit un chapitre, le chapitre 3 d'Ésaïe, parce que je priais pour ces gens qui ont été affligés, parce que ça doit être affligeant pour les familles de ces policiers, non? Franchement, c'est grave quand on ne peut pas oublier les familles, les enfants, etc. Moi, je ne sais pas, mais moi, mon fils serait policier, il aurait vécu ça, ça me ferait mal au cœur quand même. Même si on sait que ça doit arriver, on ne peut pas rester insensible. Donc je priais, je pensais à ces familles, je pensais au ministre de l'Intérieur, etc., aux décisions qu'ils doivent prendre. Ésaïe chapitre 3, regardez. On a l'impression que ça aurait pu être écrit dans la dépêche ce matin. C'est lié au péché de Jérusalem. Ésaïe chapitre 3. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin, c'est dans le sens de prophète également, l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué, l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chef, des enfants domineront sur eux. Regardez bien la suite. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. Vous commencez à comprendre ? C'est ce qui se passe quand il y a le péché dans un pays qui s'aggrave, il y a réciprocité d'oppression. Tous ces jeunes contre tous ces policiers, c'est exactement l'image de ça. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard. Il y a des vieillards qui se sont fait massacrer pour 100 euros. C'est grave, hein. Et l'homme de rien, celui qui est honoré, on ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. On demande à des gens qui sont complètement fous de devenir le chef de certains groupes, c'est grave, hein. Prends ces ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni peine ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle. Juda s'écroule. On pourrait mettre la France chancelle et Paris s'écroule. Parce que leurs paroles, regardez bien, parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. Dites-leur à tous ces gens qui ont abandonné Dieu. Vous allez voir comment ils vont vous parler. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes. Je répète. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes, mais là c'est pire, sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera. Vous lirez la suite et vous verrez que ça correspond exactement à ce qui se passe dans une nation quand on abandonne Dieu. Je voudrais lire un autre verset qui m'est venu sur le cœur ici, juste avant, dans l'Ecclésiaste. Après, il y a le Cantique des Cantiques, mais juste avant, il y a l'Ecclésiaste. Et au verset 11, vous allez comprendre pourquoi les choses dégénèrent vite. Le verset 11 du chapitre 8 de l'Apocalypse, de l'Ecclésiaste, l'explique très très bien. J'ai pris ces deux versets pour vous indiquer que la cognée, Dieu est en train de la mettre à la racine de l'arbre, et vous feriez bien, vous qui n'êtes pas convertis, de regarder à vos pieds où vous en êtes. S'il n'y a pas la hache à vos pieds. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Regardez cette parole. Elle définit exactement ce qui se passe dans le monde et dans notre nation. Regardez bien. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, ces gens-là qui commettent des crimes, ils devraient être directement enfermé. Vous allez me dire, mais ça y est, il se met à faire de la politique. Écoutez-moi, ce n'est pas moi qui fais la politique. C'est Dieu qui dit que quand une sentence a été exécutée, on devrait de suite prononcer un jugement. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de sentence ? Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Vous avez lu comme moi ? Et voilà exactement ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que les choses vont dégénérer, que les choses dégénèrent. Et c'est triste à dire ce que j'ajoute, mais je l'ai déjà dit. C'est que ce n'est rien à côté de ce qui attend notre monde une fois que l'Église va être enlevée. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Il faut que les choses soient dites. Dieu est un Dieu d'amour, de miséricorde. D'ailleurs, si on est encore sur la terre, c'est parce que Dieu patiente. Vous le croyez ? Que la patience de Dieu est notre salut, que le Seigneur attend. Mais d'un côté, il attend, mais de l'autre, il est dit que s'il n'agissait pas, que même les élus seraient en danger. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Donc il y a un juste milieu, et Dieu sait très bien ce qu'il doit faire. Donc cette cognée, elle est là. Est-ce que je m'attaque au problème ? Ou est-ce que je m'attaque juste aux quelques feuilles qui dépassent ou quelques branches qui me gênent ? Vous savez, quand on commence à laisser Dieu s'occuper de nos problèmes, la vie, elle change. Quand je commence à dire, mais Seigneur, je veux changer. Je veux changer. Je veux que tu me montres ce qui ne va pas. Et je le ferai. Combien de temps ? Moi, j'en ai honte, je vous le dis. Il m'a fallu des années pour me rendre compte que j'étais un mauvais mari. J'en ai honte. Je n'étais pas mauvais. Mais j'étais Oui ou non? Je ne m'occupais pas de ma femme comme j'aurais dû, à cause de l'église en plus. Ce n'était pas ici, c'était à Albi, mais ça ne fait rien. J'ai mis des années, et j'en ai honte encore aujourd'hui. Jusqu'au jour, dans une réunion, le Seigneur m'a parlé que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et la suite, c'est vraiment... Il est pire qu'un infidèle. Et moi, qui étais honoré par tous les chrétiens d'Albi, le Seigneur m'a montré, oui, les chrétiens, ils pensent ça de toi, mais moi, je pense ça. C'est que tu es pire qu'un infidèle. Je vous assure que ça m'a... Eh bien, je ne me suis pas occupé des branches, là, qui est passé. Je me suis occupé des racines, j'ai supplié Dieu. J'ai supplié Dieu, et j'espère que j'ai fait quelques petits progrès avec mon épouse et mes enfants. Je le dis franchement, je m'en suis occupé. J'ai dit, Seigneur, mais je te demande de me parler. Et pourtant, je prêchais, et je m'occupais des gens, et tout le monde m'encensait, etc. Mais je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on obéit à Dieu. Vous le comprenez bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Jean-Baptiste prêche, etc. Les gens venaient de partout. C'était formidable, non? Est-ce que c'était bien? Les gens venaient de partout, ils venaient se faire baptiser, etc. Ils confessaient leurs péchés, et tout le monde était baptisé, et vive le baptême, etc. C'était pas le même baptême que nous avons aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était un baptême qui amenait les gens, petit à petit, à la croix, à la repentance, qui, plus tard, devrait les amener au calvaire. Ça se passait bien, jusqu'au jour où Jean-Baptiste a regardé comment il venait. Alors ça, il n'y a que Dieu qui peut le montrer. Comment vous êtes venu ce matin dans la maison du Seigneur? Comment moi, le premier, je suis venu dans la maison du Seigneur? Est-ce que Dieu sait comment vous êtes venu dans la maison du Seigneur? Ah ouais? Jean-Baptiste a regardé, le Saint-Esprit l'a poussé à regarder vraiment comment il venait. Et c'est ce qui nous interpelle aussi à nous. Comment nous venons dans la maison du Seigneur. Alors il a été animé d'une sainte colère, c'est pour ça que notre frère Adélaïde disait, on le voit comme un homme dur, et c'est vrai que la première fois qu'on lit l'histoire de Luc et de Matthieu, on dit, oula Jean-Baptiste, mis à part ses habits, ça ne devait pas être facile. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous avez vu ce qu'il leur dit? Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous aimez cette parole? Qu'est-ce que vous en pensez de cette parole? Est-ce que c'est Dieu qui parlait au travers de Jean-Baptiste? Bon. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Alors il faut bien comprendre. Est-ce que Jean-Baptiste est méchant? Est-ce que Jean-Baptiste est en train de les maudire? Est-ce qu'il les maudit? Mais bien sûr que non. Si vous pensez que Dieu est en train de maudire des gens, vous ne connaissez pas Dieu, ça c'est sûr. Il faut réfléchir. Il s'est rendu compte que ces gens-là s'approchaient que pour la bénédiction. Alors Dieu bénit, moi je le crois. Il ne faut pas tout jeter. Moi je crois que Dieu bénit. Vous pouvez le dire que Dieu vous a béni depuis que vous le connaissez? Dieu bénit, c'est indéniable. À partir du moment où on rentre dans le royaume de Dieu, nous sommes ses enfants, il nous éprouve, c'est vrai, mais il nous bénit. C'est impossible autrement. Si Dieu ne vous a pas béni depuis longtemps, c'est qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème. Dieu bénit. Donc, il cherchait que la bénédiction, mais Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit, la preuve. Jésus dit que c'est le plus grand. Il les aimait, mais il venait d'une manière religieuse, superstitieuse, superficielle, légère, vous pouvez mettre le qualificatif que vous voulez. Et il représente tous les chrétiens qui n'ont rien à faire de leur péché, en fin de compte. Ils veulent la bénédiction, tout le monde se fait baptiser, c'est quand même quelque chose. Eh bien, moi, je vais me faire baptiser. C'était des religieux, des gens qui allaient à la synagogue, etc. Mais ils ne cherchaient pas Dieu. Les propos de Jean-Baptiste prouvent qu'ils avaient un double langage. Race de vipère, la vipère, ce qui la caractérise, c'est qu'elle a une langue fourchue. Donc, il y avait deux langages, il y avait deux comportements, il y avait deux attitudes. Et ça, Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Il leur a parlé de cette manière. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la parole soit adressée de cette manière? Parce que c'est, entre guillemets, sévère quand même, oui ou non? Même si, quand on est converti, on sait très bien que c'est plein, plein, plein d'amour et de tendresse, en même temps, on ne peut pas en déduire autrement que c'est plein de sévérité. Pourquoi le Seigneur leur a-t-il parlé ainsi? Mais pour les faire réagir. Quand Dieu nous parle de manière sévère, ce n'est pas pour nous ennuyer, ou ce n'est pas parce que parce que nous voilà, moi je ne veux pas de légalisme. Oui, le légalisme, ça détruit l'Église. Quand on impose ses convictions, quand on oblige les gens à faire ceci, à faire cela, à donner de l'argent, à être présent aux réunions, tout ça c'est sectaire, tout ça c'est humain, et quelqu'un qui a le Saint-Esprit sait très bien que ça ne vient pas de Dieu. Le légalisme a détruit l'Église, de la même manière que le libéralisme a détruit l'Église. Mais la spiritualité ne détruit pas l'Église. La spiritualité, elle amène les gens auprès du Seigneur. Et Jean-Baptiste voulait les aider, il fallait qu'ils réfléchissent. De la même manière que si vous n'êtes pas encore baptisé, si vous n'êtes pas encore repenti, converti, vous devez réfléchir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle est sévère. La cognée, elle est à la racine des arbres. Ça veut dire qu'elle est à vos pieds. Ça doit vous faire réfléchir, ça. Ça ne vous ferait pas réfléchir si le Seigneur vous montrait dans un rêve que la cognée, elle est à vos pieds et qu'il faut se baisser un petit peu juste pour regarder ce qui se passe et dire, mais moi qui regarde un peu en l'air, je ferais mieux de regarder, de m'incliner devant ce Dieu. Parce qu'on l'a chanté tout à l'heure, vous le croyez ce qu'on a chanté? Que tout genou fléchira, toute langue confessera. Vous le croyez ça? Est-ce que vous le croyez que tout genou fléchira devant Dieu? Est-ce que vous le croyez? Tout le monde fléchira. Mais ça sera ou du bon côté ou du mauvais. Moi, hier soir, je lisais ce texte, justement. Je l'ai lu parce que je voulais le lire. Et je me suis mis à genoux dans ma chambre, dans mon bureau. Et j'ai dit, Seigneur, c'est une joie de me... Parce que c'est bien de le faire de bon cœur. C'est pas vrai? Mais il y en a qui le feront, ils seront obligés de le faire. Tout le monde fléchira à genoux, de toute façon. Cette vie de Dieu, elle vient, le Seigneur parle, il sait très bien comment te parler. Et si vous dites au Seigneur, parle-moi, attendez-vous à ce qu'il vous parle. Pas directement, quoi qu'il peut le faire. Mais il va peut-être vous parler au travers d'un frère, d'une sœur. Oui ou non? Vous ne me répondez pas? Est-ce que Dieu peut vous parler au travers d'un frère, d'une sœur, d'un conjoint, d'un de vos enfants? Est-ce que Dieu peut agir au travers d'un inconverti? Est-ce que je pensais à les chansons et le panetier. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé deux païens, dont un était vraiment païen, pour conduire Joseph? Eh oui. Et on pourrait prendre les exemples dans la Bible, mais le temps nous manque ce matin. Mais, ou alors il aurait pu ne rien dire. Après tout, moi je dis rien. Je veux pas d'histoire. Moi, dans mon église, quand j'ai un truc de difficile à dire, j'invite un pasteur qui connaît rien, comme ça, s'il a un truc à dire, il le leur dit. Écoutez, moi, je ne suis pas trop comme ça, moi. Moi, j'ai entendu 50 fois, M. Bourdonneau a dû l'entendre souvent, moi, je ne peux plus rien dire à mon église. Tu l'as déjà entendu? Je ne peux plus dire, quand j'ai un truc à dire, je peux venir un pasteur. Écoutez, moi, je ne suis pas... Si un jour, je ne peux pas vous dire ce que j'ai à vous dire, sérieusement, j'arrêterai. C'est un manque d'honnêteté. Il aurait pu ne rien leur dire. Est-ce qu'il aurait pu ne rien dire? Ben oui. Il leur a dit, parce qu'il les aimait. Et nous, on vous aime, vraiment. Vous n'aimez pas les enfants de l'Église? Les animateurs, on vous aime, mais vraiment. Mais nous, on vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Et il ne veut pas que vous vous endurcissiez. Oui, on pourrait ne rien dire. Oui, on pourrait dire, eh bien, on va prier pour que tu te repentes. On va prier pour que tu te convertisses. Non, il vous faut vous repentir. Il vous faut vous convertir. C'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez dire ce matin, je veux donner mon cœur au Seigneur. Il aurait pu les baptiser. Est-ce qu'il aurait pu ne rien dire et les baptiser? Oui. Ils auraient eu certainement une joie passagère. Ils auraient dit, oh, c'est super, tu te rends compte, on a été baptisé avec tous ces gens, avec cet homme, bon, il est particulier, ce Jean-Baptiste, comment il mange déjà, et comment il s'habille, mais ça ne fait rien quand même. Ils auraient eu une joie passagère. Il y aurait eu quelque chose, mais ça ne sert à rien la joie passagère. Vous le savez. C'est bien, béni soit Dieu pour toutes les joies passagères. Mais ça ne serait rien, il voulait les éclairer. On l'a chanté, mais ouvre nos yeux, Seigneur, mais ouvre mes yeux. Est-ce que je suis sauvé? Ça m'est arrivé, moi, de poser des questions à des gens. Est-ce que vous êtes sauvé? Je ne sais rien. Vous ne savez pas si vous êtes sauvé? Non, je ne sais rien, je ne sais pas. Mais si vous ne savez pas, c'est que vous ne devez pas l'être. Quand on est sauvé, en principe, on le sait, il me semble. Mais moi, c'est mon devoir de vous dire également, mais réfléchissez. Même si on est obligé de vous dire la vérité d'une manière un peu brutale. Est-ce que vous acceptez qu'on vous dise la vérité d'une manière un peu brutale? Est-ce que vous acceptez? Vous ne répondez pas tous. Est-ce que vous acceptez que Dieu vous parle d'une manière un peu sévère? Je verrai dimanche prochain. Mais il y a un enseignement, et la sévérité de Dieu, c'est une bénédiction, vous le savez, je l'ai déjà dit. Il montre qu'il y a un vent à la mer. Il vient, le Seigneur. Vous le croyez que Jésus revient? Mais vous le croyez que c'est proche? Vous le croyez, mes frères et sœurs, que Jésus va bientôt revenir? Et que bientôt on va être aux noces de l'agneau, et que, hélas, il y en a qui ne seront pas prêts. Quand il est dit qu'il va, il a son vent à la main, il va nettoyer son air, etc. Ça, il va le faire. Ça va être fait. Ça n'a rien à voir avec ces hommes politiques qui font des promesses et qui ne les tiennent pas. Le Seigneur dit qu'il a son vent à la main et qu'il va nettoyer son air. Laissez-moi vous dire qu'il va le faire. Et qu'il va séparer le bon blé de la balle, vous savez, ou du mauvais grain, ou de l'ivraie. La cognée, elle est à la racine des arbres. Et il vous dit, Seigneur, mais où j'en suis ce matin? Parce que nous, on est là, on est dans notre grande psychologie. Là, le monde est embourbé dans la psychologie. On est là, mais ça ne va pas. Ah ben écoute, ah ben va voir tel film, tu vas t'éclater. Va voir un film, on l'entend ça. Ah, tu vas te marrer, ça va te faire du bien. Puis bois un bon coup, tu verras. Va au Sinanche, et puis après tu vas au resto, tu verras, ça va te faire du bien. Ton couple, il va repartir. On l'entend, je l'ai entendu ça, ouais. Je l'ai entendu. Alors moi, je ne suis pas contre les bons films, je ne suis pas contre prendre un apéritif. Ne dites pas ce qui n'est pas. Mais ça, c'est bien. Merci Seigneur si on peut. Est-ce que c'est bien si on peut s'offrir un bon restaurant, si on peut, etc. Bien sûr. Ne devenons pas mystiques et bêtes. Parce que c'est comme ça que des gens ne se sont jamais convertis, ils nous ont pris pour des gens mystiques. Il y a de bonnes choses et Dieu dit par l'apôtre Saint Paul que Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Et il faut savoir, il faut pas être hypocrite. Si vous avez été béni matériellement, bénissez le Seigneur et jouissez de ce que Dieu vous a donné en toutes choses. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, la bénédiction, ce n'est pas de couper les branches, ce n'est pas de chercher de l'artifice. La bénédiction, c'est d'être honnête. Aujourd'hui, Seigneur, moi je veux de la profondeur, je veux être prêt quand tu reviendras me chercher. Et si tu as quelque chose à me dire, dis-moi-le. Le tape à l'œil, c'est bien le tape à l'œil. Mais aujourd'hui, c'est ça. Hier, je parlais avec une chrétienne l'autre jour qui me disait que quand elle est à l'église, elle était furieuse. Elle est dans son église et il y avait des gens qui venaient voir ses enfants. Ah, tu as acheté un nouveau pull, tu as acheté une nouvelle veste. Ah, c'est bien. Et combien tu l'as payé? Bon, après tout, si on peut s'acheter de belles affaires, tant mieux, oui ou non? Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Mais le tape à l'œil, ça ne sert à rien. Merci pour les belles voitures, merci pour les belles maisons, merci pour les belles piscines, tout ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas le tape à l'œil qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est « ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, je veux de la lumière. Peut-être que j'ai encore de l'amertume dans mon cœur. » On a chanté tout à l'heure quand mon cœur était rempli d'amertume. Pourquoi il y a tant de gens qui ont rétrogradé? Ils étaient moins bons que nous. Ils étaient moins bons que nous. Les gens qui ont rétrogradé, c'est qu'on est meilleurs qu'eux, non? Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait piéger. Ils se sont fait piéger, ils ont laissé de l'amertume dans leur cœur, ils ont laissé du ressentiment, ils n'ont pas voulu pardonner. Oui ou non? Et voilà, ils se sont fait piéger. Puis c'est pour ça que Seigneur, mais ouvre mon cœur, délivre-moi de l'amertume. Moi, j'en ai eu de l'amertume. J'en ai eu en tant que. Je pense que j'en ai jamais eu un converti. Parce que je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours pardonné, même avant ma conversion. Il m'a fallu être chrétien pour avoir de l'amertume. Non, mais franchement, vous vous rendez compte? C'est vrai ce que je vous dis. J'étais furieux. J'étais furieux. J'avais de l'amertume en étant chrétien. Comme quoi, voyez, il y a des choses qui peuvent nous. De l'amertume, il m'a fallu, je ne sais pas, ça m'a pris 2 mois, mais pour moi, c'était une éternité. Passer 2 mois avec de la rancune, prendre la Seine-Seine avec de l'amertume, parce que j'étais dans un combat terrible. Et je sais très bien que si je ne m'étais pas ressaisi, j'aurais rétrogradé. C'est sûr et certain. Alors, mes frères et sœurs, il faut qu'on puisse dire, mais Seigneur, touche-moi ce matin. Je ne veux pas sortir et aller voir un bon film. Oui, 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 s'il est bon. Si vous en avez un de bon à me conseiller, de bon, c'est bon, mais pas bon, c'est pas la peine. Vous savez, ces choses-là, c'est comme les branches, on peut les couper, ça repousse. Il faut s'occuper des racines. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour dire... Si Dieu te posait la question ce matin, est-ce que tu es d'accord? Écoutez bien, je suis sérieux, je réfléchis à ce que je vous dis. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es d'accord pour entendre tout à nouveau ma voix? Est-ce que tu es d'accord? Parce que des fois, on dit, Seigneur, parle-moi, mais c'est pas vrai, on n'a pas envie que Dieu nous parle. Imaginez si Dieu demande à un frère, ouais, tu arrêtes ton boulot et tu deviens serviteur. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Est-ce que ça pourrait arriver? Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux entendre ta voix. Alors le gars, bien sûr, tu vois, je gagne 2000 euros. Seigneur, tu vas me dire que je vais gagner 4000 euros. Ben oui, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Quel est le nouveau patron? Est-ce que c'est ça? C'est pas tout à fait ça que je veux. Est-ce que Dieu peut le faire? Dieu peut le faire. Mais est-ce que je suis capable ce matin de dire la soupe? Parce que Dieu voit comment vous répondez à mes questions intérieurement. Ce n'est pas des questions que je pose à la légère. C'est des questions auxquelles vous répondez, consciemment ou inconsciemment. Et Dieu va agir en fonction de ces réponses. Est-ce que je suis d'accord pour que j'ai de nouveau de la lumière dans mon cœur? Moi, vous savez, il y a quelque temps, ça, c'était pendant l'AVC, juste après l'AVC. J'ai demandé à Dieu, j'ai accepté tout ça, je l'ai accepté sans problème. Je n'ai jamais dit à Dieu pourquoi. Je savais très bien que Dieu savait ce qu'il faisait. Et en priant, j'ai dit, Seigneur, mais moi, pourquoi? Où tu veux m'amener? Qu'est-ce que je dois comprendre? Parce que je courais à droite, à gauche, etc. Et je vais vous résumer ce que Dieu m'a dit. Tu vois, mais tu apportes la lumière aux gens quand tu prêches. Tu apportes la lumière, comme ce matin. Mais je ne veux pas que tu apportes la lumière. Je veux que tu apportes la lumière et la vie. Parce que vous savez, c'est une chose d'apporter la parole. Ça n'est une autre quand vous apportez la vie. Vous voyez une des raisons pour laquelle j'ai fait mon accident? Est-ce que ça valait la peine?
Bon, je crois que oui.
Mes frères et sœurs, Dieu, il sait ce qu'il fait. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que Dieu apporte davantage de lumière, tiens, ou davantage de vie? Est-ce que je veux que Dieu me montre ce qui ne va pas? Peut-être oui. Moi, hier, à la réunion là, des aînés, j'ai pensé à un jeune. Ça ne m'étonnerait pas qu'un de ces jeunes qui étaient là devienne serviteur de Dieu. Peut-être qu'il ne le sait pas. Peut-être que je me trompe. Mais, Seigneur, je voudrais tout à nouveau entendre ta voix, même si tu dois me parler avec sévérité. Oui, Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Et il nous dit ce qu'il a à nous dire. Que son nom soit béni. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut aller à la croix. C'est pour ça qu'il nous reste une demi-heure. Il faut connaître cette grâce de dire, mais où c'est que c'est au cinéma, un bon resto? Je le répète, parce qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Attention, c'est grave. C'est à la croix, mes frères et sœurs, que la victoire, elle vient. La victoire, ça sera toujours au calvaire. Ça sera au pied de Jésus, pour les chrétiens, et encore plus, bien sûr, pour les pécheurs. Va à la croix. Va y retrouver ton sauveur. Ce soir, je vais lire ma Bible. Je ne veux pas apprendre un psaume. Tiens, il a parlé du psaume 23. Je vais disséquer ce psaume et je vais... Bon, c'est bien. Mais je veux que ce psaume m'apprenne à te connaître. Je veux pouvoir dire, oui, l'Éternel est mon berger. Il me dirige. Ça ne va pas être de la théologie, de l'enseignement, du témoignage théorique ou théologique. Ça va être la vérité. Oui, je vais être sérieux avec cette affaire de jugement. Parce que le jugement, il vient. Soyons sérieux, mes frères et sœurs. Et si, en parlant de hache, je pensais en préparant ma prédication à ce pasteur, vous savez, qui avait perdu sa hache. Vous vous rappelez? Je pensais, parce que ça se recoupe. Vous savez, il avait perdu la hache, il avait emprunté, il ne devait pas être très riche, il n'avait pas pu en acheter une, il avait emprunté une hache pour couper un arbre, et paf, il n'a pas fait attention. Pas fait attention, parce que si vous avez déjà manié la hache, moi je peux vous dire, quand j'étais petit, mon père il me faisait tailler des arbres, et vous le sentez quand le fer il s'en va, vous le sentez, je peux vous le dire, vous le sentiez bien avant, croyez-moi, et le gars il n'a pas fait attention, c'est sûr qu'il n'a pas fait attention, c'est certain, je peux vous le dire, il n'a pas fait attention, et plouf, le fer est tombé dans le ruisseau, mais de suite, il n'a pas fait la comédie en continuant à taper avec la manche, oui. Non mais il y a des gens, ils sont forts, hein. Il continue à servir Dieu tout en ayant perdu le manche, tout en ayant perdu la hache. Est-ce qu'on peut faire de la comédie jusqu'à ce point? Ben bien sûr, la comédie, c'est tout le monde peut la faire. Non, il va voir le prophète, il dit, voilà, mon Seigneur, j'ai perdu le fer, il était emprunté. Vous vous rappelez ce qu'a dit le prophète Élisée? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Où est-il tombé? C'est ça l'honnêteté. C'est où que ça a commencé? Mon problème de couple. Où c'est que ça a commencé mon problème d'alcool? Où c'est que ça a commencé cette difficulté? Où ça a commencé? Là. C'est là. Tu t'es attrapé avec Monsieur Dupont. Eh bien, va lui demander pardon. Vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a dit, écoute, tu te jettes dans l'eau, tu pitules à peu près, et tu
tu navigues à vue et tu l'attraperas ton fer, ne te casse pas la tête. C'est ça qu'il a dit. Vous vous rappelez ce qu'il a fait? Il a jeté un bout de bois et le fer est remonté. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas les faire, ce n'est pas possible. Bien sûr, c'était une solution, mais ce n'est pas la peine de se jeter n'importe comment. Le bois de la croix ramènera les victoires. Ce que vous avez perdu, la croix vous le redonnera. Vous le croyez, mes frères et sœurs? C'est ça la victoire. Vous avez peut-être perdu, ben oui, ben on n'est pas là. Ah, t'as perdu, ben c'est pas bien. Ben non, en vérité, on s'en fiche, en vérité. Et c'est vrai. Ce qui est important, c'est de croire toujours qu'à la croix, il y a la victoire. Et vous pouvez dire, alléluia, oui, ce matin, je peux vivre dans la victoire. Oui, il s'est écrié, la Bible dit, il s'écria. Où est-il tombé? Et il est tombé. Et Dieu l'a béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi je sais que je veux revenir à la croix, je veux être sérieux. On ferme les yeux quelques instants. Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne m'adresse pas trop aux chrétiens, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas baptisés. Et je le fais de la part du Seigneur. Croyez-moi, c'est pas mon habitude moi de faire de l'évangélisation presque à un culte. C'est une forme d'évangélisation, même si c'est parsemé d'édification. Il n'empêche que c'est de l'évangélisation. Alors moi, je m'adresse à tous ceux qui ne sont pas baptisés. On reste recueillis. C'est un moment archi sérieux. Je ne sais pas comment les gens s'approchaient du Jourdain. Je ne sais rien. Mais en tous les cas, une chose est sûre. Dieu a parlé par Jean-Baptiste. Dieu parle par sa parole. Je le répète, ce qui est important, ce n'est pas le messager. Ce qui est important, ce n'est pas le costume du messager. Ce qui est important, c'est le message. Alors la cognée, elle est à la racine. Peut-être que tu devrais voir à tes pieds qu'il y a une grosse hache et que le Seigneur, il va faire son œuvre. Ou tu t'occupes des racines. Ça ne va pas, je le décapite. Seigneur, occupe-toi de moi. Par la croix. Il va vous aider, le Seigneur. Vous savez, les 80, je vais vous dire un secret. Les 99%, c'est lui qui va le faire. Le bois, il a attiré le fer. Quelle grâce. La croix vous attirera, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, Seigneur Jésus, tu vas bientôt revenir, nettoyer ton air. Croyez-moi, ça va se faire. Ne vous amusez pas avec la patience de Dieu. Oui, Jean-Baptiste, il paraissait dur, c'est vrai. À la première lecture, on dit, c'est un drôle de pasteur, ce gars. Et quand vous lisez au bout de 35 ans, vous commencez par dire, Dieu nous aime. Et il nous dit ce qu'il a à nous dire. Alors, que vous restiez assis parce que vous ne puissiez pas prendre la Sainte-Cène, c'est pas grave, mais que ça soit la dernière fois. Et je vous le dis de la part du Seigneur, parce que moi, en vérité, vous faites ce que vous voulez. Quand je passerai devant Dieu, Dieu ne va pas me demander combien de gens j'ai baptisés. Ça, j'en suis certain. Il me demandera, est-ce que tu as prêché avec droiture? Et vous, les enfants de chrétiens, qu'attendez-vous ce matin? Vous qui m'écoutez sur Internet, qu'attendez-vous? Vous qui n'allez même plus à l'église, parce que vous êtes déçus. Dieu t'attend à l'église, mon frère, ma sœur, parce que tes enfants, ils seront gagnés comme ça. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église, et tant que tu seras dans l'église, Dieu te bénira, même si l'église n'est pas parfaite. Oui, reviens à l'église, mon frère. Reviens à l'église, ma sœur. Notre Dieu, il nous aime. Et avant de prendre la Sainte-Cène, je voudrais demander aux enfants, aux ados, d'abord eux de se lever. On reste les yeux fermés, moi je ne vais même pas regarder qui c'est qui va se lever, ça ne me regarde pas. Mais c'est une façon de dire, Seigneur, je veux t'exprimer cette reconnaissance. Je me lève, je vais m'occuper des racines. Est-ce qu'il y a un ado, un enfant, un inconverti, un nouveau, qui veut se lever devant Dieu? Moi je vous promets, et c'est vrai, c'est entre vous et Dieu. Et je partirai du principe où quelqu'un s'est levé, parce que je ne veux même pas savoir qui c'est qui s'est levé. Mais lève-toi devant Dieu. Et dit, Seigneur, ce matin, je veux faire partie de ceux qui seront dans l'arche. Je veux faire partie de ceux qui seront dans le bon blé. Alors lève-toi, mon ami, et dis, Seigneur, oui, je me repens. Je me convertis à la croix, tu m'attires. Mais tu m'attires, Seigneur Jésus. Prions quelques instants. Notre Père, oui, ta parole est la vérité. Et tu nous rappelles au travers de ce texte, oui, que ce n'est pas les messagers qui ont de l'importance, mais c'est ce merveilleux message de la croix. Que ce message soit sévère ou rempli de tendresse, mon Dieu, merci, merci, merci. Et nous te prions pour ceux qui se sont levés, nous te prions pour tous nos enfants qui ne sont pas encore à la croix. Tu les vois, Seigneur, ceux qui pourraient être là ce matin, qui sont peut-être encore au lit. Seigneur, tu as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Tu as dit toi-même que tu avais reçu pouvoir sur les morts et sur les vivants. Et tu vois ceux qui dans nos familles sont morts spirituellement. Seigneur, agis dans leur cœur afin qu'ils viennent tous et qu'ils se rendent compte qu'il y a un message à la croix. Seigneur, merci du fond du cœur. Vous pouvez vous rasseoir si quelqu'un s'est levé. Je vais demander maintenant aux chrétiens de se lever. Vraiment, levez-vous avec bonheur. Si vous êtes convertis, repentis, nés de nouveau, si vous avez pris le baptême, si vous avez mis votre vie en règle, si vous êtes dans le péché, bien sûr, ne vous levez pas. Si vous êtes dans le concubinage, dans l'adultère, restez assis. Ne prenez pas un jugement contre vous-même. Mais si vous êtes au Seigneur, considérez que ce repas, c'est le meilleur repas de la semaine. Je ne sais pas ce que vous allez manger tout à l'heure. Mais je peux vous dire que le grand repas, il est là. Le grand repas, il est là. Je peux vous le dire que c'est vrai. Que son nom soit béni.